Champagne, bonjour. Les carnets sont cette semaine dans le Calvados et comme vous l'entendez depuis quelques jours, le 72e Festival de Cannes débute aujourd'hui, mais comme vous ne l'entendez pas toujours, le 21e Festival International du Film Documentaire sur la ruralité débutera jeudi. Ici, pas de tapis rouge, puisque le festival est à l'image de la campagne, plutôt vert, surtout à Ville-sur-Iron, en Meurthe-et-Moselle. La commune qui n'a de ville que le nom, puisqu'elle abrite 300 habitants, est depuis le début de l'aventure le siège de ce rendez-vous qui fédère de plus en plus de partenaires. D'ailleurs, je découvre cette année avec plaisir que la Société des auteurs, entre autres documentaires, de la SCAM soutient cet événement. Les lignes de force du festival sont d'interroger toutes les campagnes du monde à travers des regards de cinéastes et de s'interroger sur l'avenir de ces campagnes. La soirée débat d'ouverture jeudi portera précisément sur les villages de demain. Quels seront-ils? Quelles opportunités offriront-ils à l'égard des enjeux actuels? Dernière note, l'entrée aux projections est libre et gratuite. Caméradeschamps.free.fr pour l'adresse du site si vous voulez suivre cette actualité, connaître en détail le programme. Ulysse le voyageur. Pour une odyssée locale, mais significative des besoins d'entamer une transition écologique indispensable dans les plus petites collectivités du département du Calvados. Son initiative a pris le nom de Route en commune. Ulysse Blot nous attend justement sur sa route. Et puis nous nous rendrons à Caen auprès de Valérie Retailleau, psychologue au sein de l'école des parents des éducateurs et instigatrice des ateliers ressources au bénéfice des jeunes de la mission locale.
France Inter. Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Ulysse Blot, bonjour.
Bonjour.
Merci Ulysse pour votre courrier via Sylvie Le Calvez, que je salue, notre ami du magazine Village. Vous avez pris les routes des communes rurales, et pas uniquement, il y a de l'urbain aussi, mais les communes spécifiquement du Calvados à bord de votre vélo depuis une quinzaine de jours. Et vous allez jusqu'à la mi-juillet à la rencontre de maires dans le but de connaître les pratiques éventuelles de transition écologique et démocratique.
C'est ça. Voilà, le but, c'est de faire un état des lieux de la transition écologique et démocratique dans le Calvados. Et pour ça, je rencontre un maire par jour pendant 3 mois pour leur poser toujours les mêmes questions sur la gestion des ressources, que ce soit l'eau, l'énergie ou même l'agriculture, et puis aussi tout ce qui est en termes de démocratie locale, pour pouvoir comparer en fait ce qui se fait et voir où est-ce qu'on en est en termes de transition écologique et démocratique dans le Calvados.
Ouais, et vous étiez poussé par votre prénom, évidemment, à faire une petite odyssée, Ulysse.
C'est ça, voilà, ouais. Le sujet est facile, mais effectivement, l'idée
bien
c'est de partir à la rencontre de ces gens pour savoir effectivement qu'est-ce qui se fait vraiment sur le terrain.
Oui. Avant de savoir ce que vous avez pu relever jusqu'à présent, transition écologique, on comprend, la transition démocratique, comment peut-elle se manifester?
Ben justement, c'est la question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai voulu aller à la rencontre de ces maires, pour savoir qu'est-ce qu'ils mettaient eux en place pour faire en sorte que les habitants puissent s'impliquer plus dans leur commune, déjà pour savoir est-ce qu'ils s'impliquaient dans leur commune et s'ils le faisaient, comment ils le faisaient, et donc toutes ces méthodes et techniques pour que l'habitant ait une implication plus grande au sein de sa commune, qu'elles soient en termes d'associatifs, mais aussi en termes de politique, pour voir comment les choses peuvent être modifiées pour répondre aux besoins des habitants.
Ouais. Sans porter au nu le localisme, surtout qu'il a des récupérations politiques fâcheuses à l'extrême droite, il est plus facile de trouver une réponse au niveau local qu'au niveau national.
Oui, en tout cas, c'est l'impression aussi que j'avais. C'est pour ça que je suis allé m'adresser aux maires de communes, donc des communes tirées au hasard, justement, pour avoir des petites, des grandes, des moyennes, un peu justement cette vision d'ensemble du Calvados. Puisque l'idée, c'était qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, ont en tout cas cette sensation de pouvoir un peu plus grande sur le niveau local que sur le niveau départemental, voire même national, parce qu'ils choisissent leur maire, qu'ils connaissent leur maire. Ils ont donc a priori peut-être un peu plus confiance en lui ou du moins en leur capacité à avoir un impact sur leur vie quotidienne.
Ulysse, vous n'êtes pas un néophyte, hein. Vous êtes ingénieur en bioressources et en particulier vous travaillez sur la gestion écologique de l'eau. Donc sans parler d'idées préconçues, vous avez quand même un programme, vous avez un questionnaire et une démarche particulière que vous voulez soumettre aux élus.
Alors c'est ça, en fait c'est une étude sociologique, donc j'ai avec l'aide d'un comité de pilotage, j'ai monté donc ces questions qui seront les mêmes pour tous les élus, qui concernent donc ces différents sujets, que ce soit la gestion de l'eau, mais aussi d'une manière plus générale, tout ce qui est gestion des ressources, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans ces communes. Mais ce travail-là, et le but c'est que chaque entretien se passe dans les mêmes conditions pour qu'on puisse ensuite comparer les résultats et avoir une vision globale de ce qui se fait aujourd'hui dans le Calvados.
De quelle façon vous allez rendre public les résultats ?
L'idée, c'est en fait de synthétiser toutes ces réponses au sein d'un rapport final qui sortira environ début novembre. Et l'idée, c'est de diffuser ce rapport pour qu'il serve de sujet de discussion entre les habitants et les élus, ou même les habitants entre eux, pour mettre sur la table des élections municipales le sujet de la transition écologique et démocratique.
Vous allez garder l'anonymat dans les réponses. Il ne s'agit pas de préciser qui fait quoi, qui dit quoi, et de mettre en concurrence les uns les autres, mais c'est de relever effectivement les grandes lignes à partir de ce travail de terrain que vous réalisez. Est-ce qu'on peut avoir déjà un ordre d'idées de ce que vous avez pu engranger comme analyse, comme élément d'information?
Alors aujourd'hui, je n'ai visité qu'une partie du Calvados et donc je n'ai pas encore cette vision globale. Et c'est aussi pour ça que je me retiens de partager mes connaissances ou mes ressentis aujourd'hui pour ne pas trahir une partie des gens que j'ai rencontrés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les communes, qui sont pas forcément très visibles, ni même très médiatisables, mais qui sont des choses concrètes. Et donc il y a beaucoup de choses qui avancent et d'autres qui avancent moins. Mais justement, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en vrai dans le Calvados.
Si vous voulez suivre la route en commune au pluriel, il y a la page Facebook, vous allez retrouver le lien à nos pages d'émission, et puis il y a déjà des reportages qui ont été effectués autour de cette route à vélo réalisée par Ulysse, au contact des élus du Calvados, au nom de la transition écologique et démocratique. Merci Ulysse, et bonne route.
Merci.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Coopérer avec des pays aux contours politiques et économiques délicats et parfois dans des conditions limites de sécurité est une épreuve de force de la part d'associations qui méritent le respect. Je ne parle pas là d'une activité touristique comme l'actualité nous le rappelle et vient de nous le rappeler. L'association Amitié Banounou, nom d'un village de brousse du Burkina Faso, en est une belle illustration. Créée à Caen et animée par des enseignants à la retraite, l'association a commencé son action par un soutien à la pédagogie, comme le précise Jean-Yves, notre correspondant, avant de se lancer dans la construction de classes puis la création de forages. Ce village jusque-là non reconnu, c'est doté d'un conseil et d'une association de développement. Le jardin d'enfants est animé par les mères de famille et de jeunes animateurs du village soutiennent de leur côté les actions de développement. Cette coordination a pour effet l'installation de panneaux photovoltaïques, l'ouverture d'une cantine scolaire, la création d'une bibliothèque, des travaux d'environnement avec plantation d'arbres ou la création d'un potager scolaire. Je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'activités mises en place. On aime bien la devise d'Amadou Empateba, qui régit les actions solidaires de l'association. Nous, je cite, les Africains, nous avons des manières de penser et de faire qui nous sont propres. Si les Européens veulent nous aider, ils doivent comprendre cela. Fin de citation. Il n'y a pas de site pour l'association, mais il y a un lien si vous voulez écrire et correspondre. C'est amitiebanounou@yahoo.fr. Valérie Rotaillot, bonjour.
Bonjour.
Valérie, vous êtes psychologue au sein de l'école des parents des éducateurs du Calvados. Et on va parler avec vous d'un atelier ressources pour les jeunes de la mission locale. Avant cela, j'ai vu que vous intervenez aussi auprès de la petite enfance. Vous analysez les comportements. J'aime bien cette façon de rappeler les choses. C'est que les mots, la verbalisation d'un sentiment, l'expression d'un sentiment par voie orale permet de limiter la casse et la violence.
Oui. Enfin, disons que la mise en mots peut permettre le mieux-être. Ça marche pas toujours, mais oui. On part du principe que quand les choses veulent se dire, c'est bien qu'elles puissent s'exprimer, en fait. C'est un peu l'idée.
C'est valable pour les jeunes aussi.
Alors, là, au niveau de la mission locale, on a été amené, parce qu'il y a une demande un peu particulière, la mission locale, donc c'est un lieu d'accompagnement pour l'insertion des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et ils étaient certains conseillers chargés d'accompagner les jeunes individuellement, avec une grande difficulté, puisqu'on avait des jeunes, je dirais, plus ou moins à l'aise, mais qui rencontrent des problèmes dans les entretiens, dans les démarches à faire, Et pour autant, ces jeunes-là n'étaient pas dans un mal-être, je dirais, nécessitant du soin, en fait. Donc, ils voulaient un dispositif qui permettrait effectivement d'exprimer un petit peu les émotions, le stress, la difficulté à prendre une décision. On était un peu sur ce registre-là.
Et c'est aucunement lié à une provenance, à un encadrement social particulier ou socioculturel particulier?
Bah, les jeunes qui viennent, en fait, c'est assez étonnant parce que ils ont certains des niveaux d'études élevés.
Oui.
D'autres ont eu des accidents de la vie, hein, des soucis qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu des bouleversements. On s'est aperçu, en fait, que les ateliers existent depuis 2015 et que petit à petit, on commence à avoir, je dirais, des profils qui se montrent très variés, en fait. On relie le fait d'être mal à l'aise dans la relation à soi et aux autres, et ça peut provenir de plein d'horizons différents.
Alors, quels moyens vous proposez avec l'atelier ressources?
Alors, on prend le temps de recevoir des jeunes qui seraient intéressés par cette proposition-là. Je les reçois en individuel. Je fais un entretien avec chacun. Leur expliquer un petit peu que l'idée de l'atelier, c'est de se retrouver par petits groupes. Donc, je forme des groupes de 6 à 7 personnes, pas plus. Donc, tous jeunes entre 16 et 25 ans, des garçons, des filles. Et ce petit atelier, il aura comme intérêt, en les regroupant sur des petits temps, ça dure 3 heures, de travailler sur des axes de travail qu'on a prévus ensemble, qui peuvent être comment on prend une décision, comment je suis avec les autres, comment je communique. Enfin, on prend un axe d'entrée et l'idée, c'est d'échanger autour de ça entre nous, en fait. Et puis, le fait de se rencontrer, de prendre l'habitude de se retrouver ensemble, l'idée, c'est de libérer un petit peu l'expression de chacun.
Et ces blocages peuvent avoir des conséquences sur l'avenir de ces jeunes, et en particulier leur avenir social et professionnel.
Alors, moi, je ne dis pas comme ça. Je dis que ça entrave leur présent, déjà. Parce que souvent, en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que du coup, ils ne projettent pas loin, ces jeunes-là. Des fois, ils peuvent se sentir un peu isolés. Ce qui est sûr, c'est que, étant déscolarisés, n'ayant pas trouvé ni de formation, ni de métier, en fin de compte, ils se retrouvent un petit peu, alors, je ne vais pas dire exclus, parce que ce n'est pas ce qu'on souhaiterait pour eux, mais de fait, ils sont un petit peu sur le côté. Mmh. L'atelier ressources, je pense que la première chose qu'on fait, c'est de recréer du lien, en fait.
Oui. Et puis de limiter, donc, la marginalisation.
Oui, alors, il y a des jeunes qui peuvent être effectivement entravés, donc empêchés, et puis d'autres, alors ça peut paraître étonnant, mais c'est aussi partie de l'atelier ressources, qui au contraire vont être un peu dans le passage à l'acte. C'est-à-dire que le mal-être va aussi sortir d'un seul coup. Et je reçois aussi des jeunes qui ont besoin de gérer leurs émotions parce qu'il y a trop d'impulsivité. Et à moi de former des groupes qui vont être riches ensemble. L'idée, c'est que les jeunes s'apportent aussi entre eux, c'est pas que par moi que ça passe.
Vous êtes nombreux à réaliser cela dans le réseau des écoles de parents et d'éducateurs?
Alors, à l'école des parents du Calvados, je travaille avec une collègue qui s'appelle Rachel Méchine. Mais autrement, non, c'est quelque chose qu'on a inauguré, qu'on a inventé à la demande de la mission locale. Ça correspond à un partenariat local, en fait.
Ce serait bien que d'autres partenariats dans d'autres régions, d'autres départements se nouent sous la même forme, parce que je trouve que c'est important, nécessaire, et je ne sais pas si on parle de déblocage, parce qu'à chaque fois on a l'impression de faire de la mécanique en disant ça, mais on fait...
Non, justement, c'est pas l'idée, justement. Ouais. Moi, c'est ce que je craignais en tant que psychologue, c'est d'être respectueuse, effectivement, des spécificités de chacun, et l'idée, c'est de proposer à des jeunes qui vont s'en saisir ou pas. On formate rien, on ne doit pas les faire rentrer dans un moule. C'était toute la délicatesse à mettre en place, en fait. C'est un petit peu compliqué, là.
Oui. Merci beaucoup, Valérie, pour ce travail. L'école des parents et des éducateurs de Calvados, epe14.fr, pour l'adresse internet. Merci et bon courage.
Merci à vous, au revoir.
La semaine dernière, nous étions en Haute-Savoie. On avait parlé avec Sylvie Pambette du café Bonne Nouvelle, inspiré des carnets à Chambéry. Avant l'été, demain, il y aura le dernier café Bonne Nouvelle, pour l'instant de 19h à 21h, sur le thème « En quête de sens, changer d'orientation, changer de vie », le café Bonne Nouvelle Chambéry. Donc c'est demain de 19h à 21h. On reste dans le Calvados à Mathieu pour une nouvelle journée du jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet.